disait le même Donald Trump le 28 février dernier au déclenchement de cette guerre afin d'analyser le bilan pour lui de cette très coûteuse opération militaire.
The United States military began major combat operations in Iran.
Lorsqu'il prend la parole, quelques heures après le début des premières frappes, Donald Trump explique que cette opération vise surtout à neutraliser la menace militaire que constitue l'Iran pour les États-Unis et pour leurs alliés.
Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes qui émanent du régime iranien, un groupe cruel composé de personnes très dures et terribles. Ces activités menaçantes mettent directement en danger les États-Unis, nos troupes, nos bases à l'étranger et nos alliés dans le monde entier. Nous allons nous assurer que l'Iran n'obtienne pas l'arme nucléaire. C'est un message très simple. Ils n'auront jamais d'arme nucléaire. Ce régime m'apprendra bientôt que personne ne doit défier la puissance et la force de l'armée des États-Unis. Au fier et grand peuple d'Iran, je dis ce soir que l'heure de votre liberté est à portée de main. Restez à l'abri, ne quittez pas vos maisons. C'est très dangereux dehors. Des bombes vont tomber partout. Et quand nous aurons fini, prenez le contrôle de votre gouvernement. Ce sera à vous de le prendre et ce sera sans doute votre seule chance pour des générations.
Rick qui nous déteste, sorti l'an dernier. Alors j'ai envie de vous demander d'abord votre avis sur ce qu'on vient d'entendre ici. Est-ce que pour vous, au vu justement des objectifs qui étaient annoncés en amont de ces frappes et le résultat là maintenant au moment de conclure cet accord cadre, est-ce que pour vous, il faut parler d'une forme de revers stratégique pour Trump par rapport à ses intentions de départ ?
Alors vous savez, ici à Evian, au sommet du G7, dans le centre de presse international où je me trouve, tout le monde a la même réflexion. Qu'y a-t-il dans cet accord ? Qu'est-ce qui s'y trouve exactement ? C'est un accord qui a été signé électroniquement, dit-on, dimanche dernier, et qui sera signé à Genève ce vendredi, peut-être par le vice-président américain J.D. Vance. Pourquoi je fais ce préambule ? Parce que toute notre discussion va dépendre des mots, des phrases qui figureront dans cet accord de principe. Alors il y a ce dont on est sûr. Ce qu'on sait, c'est que cet accord ouvre 60 jours de négociations durant lesquels la question du nucléaire iranien sera détaillée, abordé et a priori réglé. Maintenant, si vous écoutez Donald Trump, tout est déjà fait. Pour Donald Trump, il est acquis que le détroit d'Ormuz est rouvert. D'ailleurs, il a dit aux Européens, c'est même pas la peine d'envisager de le sécuriser. C'est bon, les navires commerciaux peuvent y aller. On est revenu à un détroit d'Ormuz ouvert. Et deuxième chose, Trump n'arrête pas de répéter, il vient de le faire lors d'un entretien bilatéral avec l'émir du Qatar ici à Evian, que le nucléaire iranien, l'idée même que l'Iran puisse avoir une arme nucléaire un jour, c'est terminé. Alors voilà, on est dans cette position, on écoute Trump dire qu'il a tout gagné, mais on n'a aucun détail concret sur l'accord qu'il a apparemment signé, ou en tout cas que les États-Unis et l'Iran ont signé électroniquement, ce qui, avouez-le, est très bizarre. Je crois que c'est une première dans les relations diplomatiques du monde. En raison, et je peux vous dire que c'est le sentiment général ici au sommet d'Evian, de la part de tous ceux qui observent cette réunion du G7. Alors, il faut quand même rappeler une différence. Donald Trump avait, dès le départ, été non pas flou, mais il avait laissé, je dirais, une sorte de marge de manœuvre dans les objectifs. Il a toujours dit que l'Iran ne devrait pas avoir d'armes nucléaires au sortir de ce conflit et qu'il avait eu raison de dénoncer le fameux accord de 2015. Vous savez qu'il en était sorti en 2018 au motif que c'était un accord trop favorable à l'Iran. Alors, on verra ce à quoi l'Iran s'est engagé sur ce plan. Deuxième élément, Donald Trump a appelé les Iraniens à se révolter. Vous avez passé tout à l'heure cet extrait où vous le rappeliez. Eh bien, aujourd'hui, la population iranienne, elle n'a jamais été autant asservie par le régime parce qu'en plus, il y a une situation de guerre et le régime, en gros, fait ce qu'il veut. Alors, ces deux objectifs, il faudra voir comment ils pourront être tenus, mais on peut d'ores et déjà dire qu'ils ne sont pas tenus, qu'ils ne sont pas au rendez-vous au moment de ce sommet du G7. Ensuite, Hormuz. Eh bien, Hormuz, c'est la guerre qui l'a fermé. Et au fond, c'est la grande découverte pour l'Iran. L'Iran a compris qu'ils avaient deux armes de destruction massive, le nucléaire potentiel qu'on leur demande et qu'on leur force d'abandonner, On verra ce que dit l'accord, mais le détroit d'Ormuz et la personne ne pourra les empêcher, demain ou après-demain, de refermer ce détroit s'il y a une nouvelle crise internationale. Donc oui, Donald Trump s'est beaucoup éloigné des objectifs annoncés de guerre, mais surtout, rappelons aussi qu'il y avait à ses côtés Israël, Israël qui est complètement absent de ce sommet du G7, alors qu'il y a des pays arabes représentés, notamment Qatar et les Émirats Arabes Unis. Or, Israël avait fixé 3 objectifs. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou avait dit renversement du régime, fin du programme nucléaire, fin du programme balistique des missiles et de l'aide aux proxys, vous savez, ces milices pro-Iran qui sont disséminées dans la région. Eh bien, à ce jour, tous ces objectifs, aucun n'a été tenu. C'est vous dire qu'Israël a raté cette guerre et semble-t-il, Donald Trump n'en a pas beaucoup, je dirais, il est prêt à abandonner son allié en rase campagne.
Oui. On réagit à ce protocole d'accord avec tous les flous que l'on vient d'évoquer.
Alors, la population, il faut savoir qu'elle est en grande souffrance parce qu'on a oublié les massacres de janvier qui ont provoqué un choc traumatique absolument terrible sur la population, puisque le régime iranien a réprimé de manière absolument monstrueuse la population là-bas. Et c'est vrai que ces manifestations qui se sont produites au moment, donc fin décembre et début janvier, se produisaient dans un contexte de crise inflationniste absolument sans précédent. Crise inflationniste qui a été exacerbée par la guerre. Et donc aujourd'hui, la population ne souhaite qu'une chose finalement, c'est l'arrêt des bombardements et de pouvoir au moins manger à sa faim. Évidemment, la colère sociale est toujours présente et le divorce qui a été acté avec le régime iranien actuel est définitif. Donc, être dans le contexte de l'époque, parce que lorsque démarrent les manifestations, finalement, cette colère sociale qui, donc de nouveau, se produit dans un contexte économique désastreux, se répercute directement vis-à-vis du régime en place, avec des demandes très claires de changement de régime. À ce moment-là, eh bien, Donald Trump intervient au Venezuela. Il désingue Nicolas Maduro, et à ce moment-là, donc la population se dit, c'est le moment, c'est l'instant. Temps, venez chez nous et nous délivrer finalement de nos bourreaux.
Donc là, il y a une partie.
À ce moment-là, il y avait déjà des morts avant les coupures d'internet et le massacre à huis clos qui a eu lieu et toute l'intensification de la répression jusqu'à aujourd'hui. Il y avait déjà des morts et donc il y avait une sorte de détresse et un sentiment d'impuissance de la part de la société civile. D'ailleurs, ce qui se pose aujourd'hui, c'est qu'effectivement, personne n'était dupe sur les intentions des Américains. Quand on regarde l'histoire contemporaine de l'Iran, personne n'a jamais voulu d'un Iran libre et puissant. Donc ce qu'il y a, c'est que la situation était tellement désastreuse d'un point de vue social et économique que c'était un espoir. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une réflexion au sein de la société civile qui consiste à dire que finalement, les mobilisations sociales qui se sont d'ailleurs amplifiées de manière très régulière depuis ces 9 dernières années, ont été faites de manière pacifique. Et ça ne fonctionne pas parce que la dernière fois, nous avons ramassé des balles de guerre. Et donc, il y a un débat qui dit, voilà, est-ce que soit on attend une intervention terrestre de l'armée américaine après les élections de mi-mandat, puisqu'on sait que la population est tellement mécontente, c'est un euphémisme du régime iranien, que les portes sont ouvertes pour collaborer avec les Israéliens et les Américains en cas de venue terrestre. Et puis il y a ceux qui plaident plutôt pour aussi une insurrection armée.
Mais donc,
des gens comme vous et moi qui sont partis dans les rues marcher et dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Ce sont des pères de famille, des mères de famille qui ont vu leur enfant se prendre une balle dans la tête à côté d'eux, parce que c'était surtout les jeunes qui étaient visés. Donc on était vraiment dans une stratégie d'extermination, de destruction. Et c'est ça toute la problématique aujourd'hui, parce qu'on ne parle pas uniquement d'opposants, on parle véritablement d'un problème social à grande échelle. régime iranien, ce n'est pas un bloc un peu abstrait qui serait homogène. C'est ce qu'on appelle un autoritarisme fragmenté qui est composé de toute une série de clans et de groupes qui tantôt se coordonnent et tantôt se confrontent les uns avec les autres, avec des individus qui changent de clan en fonction des intérêts, des circonstances, mais qui convergent tous vers une nécessité, c'est la nécessité de leur survie sociale et politique. Donc ils donnent tout pour justement cet objectif-là, mais le problème, c'est que pour arriver à survivre, ils sont obligés de sacrifier soit leur stratégie sécuritaire, c'est-à-dire la question du nucléaire qui permettrait à ce système de se sanctuariser, soit la question économique. Or, ce qu'ils ont visiblement atteint comme compromis entre eux, c'est d'éviter l'effondrement économique. C'est pour ça qu'ils se mettent à discuter avec les Américains. Mais discuter avec les Américains, ouvrir les vannes aux Américains, ça veut dire revenir sur des fondamentaux du régime, des fondamentaux de l'idéologie. Parce que tel que la République islamique existe au niveau constitutionnel, au niveau politique, au niveau idéologique, cet anti-américanisme, s'il disparaît, ce n'est plus la République islamique.
Que l'accord nucléaire iranien porté par Barack Obama est entré en vigueur. En pratique, cet accord a été le fruit de longues négociations débutées fin 2014 entre les États-Unis, l'Iran, mais aussi les autres membres permanents du Conseil des Nations Unies, c'est-à-dire la Chine, la France, le Royaume-Uni et la Russie, et en plus l'Union européenne et l'Allemagne. Cet accord prévoyait donc la levée de sanctions économiques contre l'Iran à condition que le pays ne se dote pas de l'arme nucléaire. La République islamique a donc consenti à ce que 3/4 de ses 20 000 centrifugeuses qui permettent d'enrichir l'uranium soient mises sous scellé. Ces stocks d'uranium ont aussi été limités ainsi que leur enrichissement. Pour être utilisé dans une bombe atomique, l'uranium doit être enrichi à 90%. Les normes imposées à l'Iran limitaient cet enrichissement autour de 3% pour un usage civil. Les capacités de production de plutonium militaire ont également été condamnées. Le réacteur de la centrale d'Arak a ainsi été rempli de béton. Et puis surtout, l'Iran avait accepté de se soumettre au contrôle de l'agence atomique. Elle était autorisée à entrer dans le pays et contrôler les sites iraniens à sa convenance, comme s'en est réjoui Barack Obama lors de l'entrée en vigueur de l'accord.
En résumé, alors que l'Iran développait son programme nucléaire, nous avons désormais bloqué toutes les voies qui auraient pu lui permettre de se doter d'une bombe. Alors qu'il aurait fallu 2 à 3 mois à l'Iran pour se procurer suffisamment de matières premières pour fabriquer une bombe, nous avons porté ce délai à 1 an. Grâce aux inspections internationales sans précédent et à l'accès au programme iranien, nous saurons si l'Iran tente un jour de se doter de l'arme nucléaire. Et plus important encore, nous avons réalisé ce progrès historique par la voie diplomatique sans recourir à une nouvelle guerre au Moyen-Orient.
Durant les premières années de l'accord, l'Agence internationale de l'énergie atomique a effectué plus de 400 inspections et en parallèle, l'Iran a récupéré des fonds gelés et vu certaines sanctions économiques levées au fur et à mesure. Le pays n'était pas pour autant libre d'agir à sa convenance. Des embargos sur les armes lourdes ou les missiles balistiques ont été maintenus, tout comme des sanctions économiques liées au bafouement des droits humains au sein de la République islamique.
L'opération de dénonciation de l'accord de 2015 de la part de Donald Trump, elle est encore en cours. Je peux vous donner un exemple. Hier soir, lorsque Donald Trump a rencontré Emmanuel Macron à son arrivée au sommet du G7, l'une des premières choses qu'il a dit, c'est que Obama avait même accepté de remplir un avion d'argent pour les Iraniens pour acheter en quelque sorte leur accord lors de ce traité qu'on appelle le JCPOA de 2015. Donc l'objectif de Donald Trump reste toujours le même, c'est discréditer au maximum cet accord arraché à l'époque par les Européens, il faut le dire, les Européens s'étaient beaucoup impliqués, et par celui que Donald Trump nomme toujours Barack Hussein Obama. Ensuite, que peut-il se passer? Au fond, il y a 2 scénarios. Soit effectivement, il y a d'abord dans l'accord de principe dont on ne connaît pas, je le répète toujours le contenu, il y a des phrases et des mots très forts rapport qui confirme l'engagement de l'Iran à abandonner l'arme nucléaire. Ça, c'est la version de Donald Trump, mais on ne sait absolument pas si ce sera le cas. Et ensuite, il y a les 60 jours qui doivent mettre tout cela en pratique. Alors, que peut-il se passer? Eh bien, au fond, il y a deux possibilités. La première, c'est que des vraies négociations se mettent en place. Et dans ce cas, Emmanuel Macron a déjà dit qu'à son avis, ce qu'il fallait, et ça paraît évident, c'est réimpliquer l'Agence internationale pour l'énergie atomique de manière à ce qu'elle ait un accès à tous les sites iraniens, qu'elle puisse contrôler et qu'elle puisse en faire un état, une sorte d'inventaire après toutes les frappes qu'il y a eu depuis le 28 février. Et puis, il y a une autre option. C'est que ça ne marche pas, c'est que ces deux mois ne mènent à rien, que ce sont des deux mois de tergiversation et qu'à l'issue de cette période de 60 jours, peut-être plus tard, après les midterms, Donald Trump prenne prétexte du refus des Iraniens d'avancer et de confirmer leur abandon du nucléaire militaire pour de nouveau frapper le pays, peut-être à nouveau avec Israël. On ne peut pas écarter cette possibilité.
Mais on imagine que...
Vous avez raison, rappelons, la chronologie, elle est importante. Donald Trump, dimanche, il fêtait son anniversaire. C'était ça sa priorité, et d'où son empressement à annoncer une signalure électronique dont on ne sait d'ailleurs même pas si elle a eu lieu. Il l'annonce, mais personne n'a vu la trace de cette signature électronique d'un accord avec l'Iran. Ensuite, il est au G7, il va repartir aux États-Unis, il aura le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance du pays, des grandes manifestations à Washington, puis il y aura un sommet de l'OTAN début juillet et ensuite il y aura les midterms. Ce qui est très probable, c'est que Donald Trump veut faire oublier ce conflit aux Américains jusqu'aux midterms, de manière à repartir en campagne, à expliquer que c'est une guerre zéro mort et du côté américain c'est vrai, il faut le rappeler, il n'y a eu qu'une quinzaine de morts, ce qui est vraiment très peu, voire rien du tout pour une opération de cette ampleur. Je ne parle bien sûr pas des morts en Iran, je parle des morts dans les rangs de l'armée américaine. Et donc il va à coup sûr, dans les prochaines semaines, dire aux Américains, j'ai réglé le problème nucléaire, j'ai remporté une victoire, l'Iran est maintenant disposé à accepter tout ce qu'on demande, chers citoyens américains, votez pour moi.
Carolina.
Un rôle extrêmement important au niveau, déjà c'est une puissance mondiale et puis dans la région elle est très présente. C'est le premier partenaire, c'est le premier acheteur de pétrole iranien et un soutien économique très important pour la République islamique et aussi une sorte de garantie diplomatique. Mais donc la Chine n'a aucun intérêt à ce que la libre circulation des flux d'hydrocarbures et énergétiques soit bloquée. Et donc le régime iranien l'a même reconnu que la Chine intervenait de manière indirecte et plutôt discrète dans les négociations avec les États-Unis et notamment via la médiation pakistanaise. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus, il faut relativiser la puissance de l'Iran. L'Iran continue d'avoir une capacité de nuisance très importante, mais la question du nucléaire, qui est quand même le cœur de la raison d'être de cette guerre, qui n'a pas commencé le 28 février, elle a commencé en juin 2025.
Que des coups de boutoir très durs sont portés au régime, un régime qui semble pourtant toujours tenir le choc aujourd'hui, au prix d'une situation de plus en plus catastrophique pour sa population, au prix d'une répression meurtrière, malgré les promesses de Trump, le bout du tunnel semble donc toujours bien loin aujourd'hui pour les Iraniennes et les Iraniens.